des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde Seille en votre compagnie. Bonjour, coucou à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, soit via CKVL, Canal M, via la télévision ou encore en balado. À cette émission aujourd'hui, vous savez, quand on évoque le nom de Francine Ruelle, on ne peut plus juste penser aux rôles marquants qui ont jalonné sa carrière de comédienne. Aujourd'hui, l'auteur ou l'autrice, elle nous dira ce qu'elle préfère hein, comme nomenclature, mais cette femme est saluée pour sa plume sur toutes les tribunes. L'histoire d'Anna, l'histoire de ce fils qui vit dans la rue. Cette histoire a ému le Québec au plus haut point et merci d'ailleurs à tout le monde en parle. Et apparemment, ça avait été une entrevue fort écoutée et qui en avait ébranlé plus d'un. Eh bien, 2 ans ont passé depuis la sortie sur papier d'Anna et l'enfant vieillard et j'ai très très hâte de demander à Francine Ruelle comment elle a vécu la lecture à haute voix de ce livre si tristement collé à sa réalité. Et puis, si elle a des nouvelles de ce fils. J'ai déjà entendu Francine Ruelle dire « Nous, les écrivains, on n'a aucune réponse, mais on a toutes les questions ». J'en ai aussi pas mal à lui poser, des questions à Francine Ruelle. En seconde partie, je vais provoquer plutôt et vous proposer la rencontre entre un auteur et sa lectrice, Michel Jean, auteur de Coucoum, et Dominique Pétain, comédienne, lectrice du livre audio de Michel Jean, un livre qui nous plonge dans la vie d'Almanda Siméon, une orpheline amoureuse qui va partager la vie des Innus de Pequakami. Je savais que j'allais buter dessus. Et puis, pour finir, je vais vous présenter quelques nouveautés, notamment la papeterie de Tsubaki, prix du public de l'association La Plume de Pan, et Trop et jamais assez de Marie Tromp. Une certaine Marie Tromp. Ou en sous-titre, Comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde. Alors, dans quelques instants, Francine Ruelle, après cette chanson qui va lui rappeler bien des souvenirs.
Photo qui tremble. Cela faisait plus de 5 mois qu'il n'avait pas donné de nouvelles. Une espèce de statu quo, un silence qui faisait du bien en quelque sorte. Ne pas tout savoir, ne pas avoir à tout supporter. Vivre tranquillement au jour le jour, sans coup d'ascenseur brusque qui fait perdre l'équilibre, sans montagne russe qui torde les boyaux à chaque détour et qui donne envie de rendre l'âme. Un arrêt dans le temps. Une sortie de route sans danger, calme, dans une aire de repos ouatée, quelque part dans les limbes. Maman, c'est moi. Ça va? Moi, je suis à l'hôpital. Je dois sortir cet après-midi. J'ai encore eu une cellulite, au pied cette fois-ci. Ça a pris un temps fou à guérir. Ah bon? Ça va mieux? Réussit-elle à prononcer. Si on veut. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de tes nouvelles. Je t'en donne, là. J'appelle pour te rassurer. C'est gentil. C'est la deuxième fois que je vais à l'hôpital depuis que je t'ai parlé. L'autre fois, c'était un long silence entre eux, un gouffre. J'ai fait une tentative de suicide.
Bonjour, Francine Ruel.
Oui, bonjour. Vous faites ça fort, vous, quand vous commencez quelque chose. Et la chanson de Michel Jonas, qui est en début de roman.
C'est pour ça que je me suis dit, je peux pas en mettre une autre.
Celle-là, je crois.
La seule chose, c'est que je savais pas si je mettais la version de Jonas lui-même,
ouais.
Ou celle de Diane Dufresne.
De Diane, mais les deux sont très belles. C'est le texte et la musique qui sont formidables.
Voilà. Mais en plus, je savais que c'était cet extrait-là que j'allais diffuser. Rappelons quand même Francine Ruel, parce que je l'ai dit en ouverture de cette émission, c'est que de plus en plus, on sait qu'il y a Francine Ruel, la comédienne, mais l'auteur ou l'autrice, vous préférez quoi?
Oh non, pas auteur. Avec un E ou pas de E, mais pas triste.
Pas triste, d'accord.
Je peux pas.
D'accord. Mais en tant qu'autrice, de plus en plus, sur toutes les tribunes, on salue vos romans, vos histoires et votre plume. Dans le cas de Anna et l'enfant vieillard, il y a l'émission Tout le monde en parle, je pense, je l'ai dit aussi en ouverture, qui a ébranlé énormément les gens alors qu'on découvrait cette histoire d'Anna et de ce fils qui vit dans la rue et dont elle attend des nouvelles. C'est d'ailleurs pour cela que votre livre commence avec un extrait de la chanson qu'on vient d'entendre.
Ouais.
Il s'est passé 2 ans depuis la sortie de ce livre et je voudrais commencer par la fin. Mettons qu'Anna, c'est vous.
Mettons.
Avez-vous d'autres nouvelles
oui,
de cet enfant vieillard
et bon. J'ai une espèce, je formule ça comme ça, j'ai une espèce de nouvelle, c'est-à-dire que depuis le 18 août, mon fils est sorti de la rue. Bon, il n'est pas sorti du bois, comme je dis, mais il est sorti de la rue. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il ne passerait pas un autre hiver à l'extérieur. Mmh. Ça aurait été son 7e. Mais qu'il avait envie d'une douche, puis d'un lit chaud, puis d'être un peu sans violence et un peu protégé. Et voilà, donc il s'est installé en chambre. Mais c'est au jour le jour, c'est fragile encore, c'est pas simple. C'est comme une résurrection et c'est comme un énorme réapprentissage.
Oui, parce que...
Réapprendre l'hygiène, réapprendre à bouger, à arrêter de marcher sans arrêt, réapprendre à ne pas quêter, à trouver du boulot, à avoir une vie dite normale, quoi.
En plus, en période de COVID comme ça, bon. Et parce qu'il y a eu plusieurs tentatives dans le livre, il en est question, et à chaque fois, elles se soldent par un échec, enfin du moins je pense à une fois, parce que pour lui, 4 murs égale manque de liberté. C'est-à-dire que pour nous, la rue, c'est l'emprisonnement, mais pour ces gens-là, la rue...
Mais surtout, c'est l'émission qu'ils veulent pas. Ils sont, ça les dérange, entre guillemets, je peux pas dire ça comme ça, que ça les dérange pas, c'est pas vrai, mais de vivre dans des missions, c'est ça qui les dérange énormément, parce qu'il y a des règlements. Et la plupart de ces personnes qui se retrouvent en état de dépendance à se retrouver dans la rue, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir de règlement, ils ne veulent pas de règles, ils ne veulent pas se laver à telle heure, manger à telle heure, dormir à telle heure, avec les lumières fermées et tout, quoi. Moi, mon fils, je me disais, pourquoi tu ne vas pas dans l'émission? Il fait moins 30 degrés sous zéro. Et sa réponse était toujours la même. Je ne suis plus capable d'entendre les gars hurler dans leur cauchemar et pleurer la nuit. Je ne peux plus.
Il préférait donc vivre...
Comme il vivait, un peu partout, à droite, à gauche. Il essayait de me rassurer des fois avec son humour. Il me disait, arrête de t'inquiéter. Là, ce temps-ci, je dors dans un guichet automatique. Je suis filmée toute la nuit, il ne peut rien m'arriver.
Mon Dieu.
Oui, mais il arrivait quand même des choses. Il faisait voler son sac, ses vêtements, parce qu'il dort très dur. Enfin, bref.
Alors, pour raconter cette histoire de l'enfant vieillard et de l'enfant escargot, parce qu'il y a cette appellation-là aussi, des chapitres courts pour allonger, pour raconter pardon, ces jours si longs quand on a un fils dans la rue. Moi, il y en a un court chapitre qui m'a vraiment frappé, qui est quasiment rédigé, écrit comme une poésie. C'est en page 147. Pourtant, tout avait été bien pensé, orchestré, etc. Il avait été logé, nourri.
Pourtant, il y en a deux.
Voilà.
Il y a celui pour le petit enfant puis l'adolescent.
Exactement. Ouais. Et puis, entre deux, il y a des chats, des œufs, à rêver, des rires avec la maman, des petits déjeuners, des cours de saxophone, des nuits blanches aussi, des jours sans. Mais bon, le commun de toutes les familles. Et puis, il y avait eu l'accident.
Ouais. Qu'on appelle accident.
Oui.
En fait, qui est une agression.
Voilà.
À main armée, qui a été terrible, mais c'est fou. Toutes ces années-là, on n'a jamais, ni lui, ni moi, ni son père, ni les gens autour de nous, n'ont été capables de nommer ça autrement que l'accident. Parce que je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas voulu la nommer. Enfin,
parce que c'est un impondérable.
Puis parce que c'est un pourquoi qui est trop gros pour nous, pour tout le monde d'ailleurs. On ne sait pas quoi faire avec ça, on ne sait pas comment c'est possible, mais c'est possible, ce genre d'attentat-là. Il y en a partout, de plus en plus dans le monde. Alors, qui vise des individus, des fois au hasard, comme c'était le cas de mon fils. On n'arrive pas à comprendre les humains dans ce temps-là. Ces matins-là, on a bien de la misère à comprendre. Qu'est-ce qui a pu se passer, puis pourquoi on en arrive à ça, et comment quelqu'un peut se rendre jusque-là.
Voilà. Et c'est fou. Ce que j'ai retenu, parce que j'ai retenu tellement de choses de ce livre-là qui m'a ébranlée, moi aussi, bien évidemment. Quand vous écoutiez Star Wars et que lui, pour rigoler, il vous disait en sortant que la force soit avec toi.
Ouais.
Vous pouvez pas s'imaginer à ce point-là à quel point ça vous en a pris de la force, Francine Ruel.
Ouais, je réalise pas trop encore parce que je suis une maman, parce que tous les mamans ou les papas sont pareils, on veut le meilleur pour nos enfants et je pense qu'on est capable de s'enlever de nos vies, nos petits bobos, nos problématiques à nous pour dire « Oh, il y a eux à sauver » et c'est pas ça qu'il faut faire d'ailleurs. J'ai été en thérapie pendant 2 ans au moins pour comprendre que je l'aidais pas. Mm. Je trouvais les solutions à sa place, je faisais les choses à sa place. C'est ça qui est terrible, je pense.
Mais ça a dû être terrible, ça, oui, parce qu'effectivement, quand la psy vous dit...
On a l'impression qu'on
l'abandonne encore, non?
Voilà, on l'abandonne une fois de plus, surtout de cette façon-là. Cette psy qui m'a répété ad nauseum la même chose avant que ça rentre, avant que je comprenne qu'est-ce que j'étais en train de faire, elle répétait tout le temps, mais c'est un adulte, redonnez-lui sa vie...
Alors, oui.
...et tenter de reprendre la vôtre.
Oui, oui.
Mais ça, c'est dire, ben arrange tout seul, puis débrouille-toi, même si c'était plus âgé, mais c'est en même temps, c'est pas pour rien que j'ai appelé ça l'enfant vieillard. C'est mon fils me parle et j'ai l'impression qu'il a encore 16 ans dans sa tête.
Mmh. Alors que physiquement, il est très atteint, bien sûr.
Ben voilà, ça m'agane la rue, ça m'agane énormément.
Mmh. D'ailleurs, cette phrase de la psy, redonnez-lui sa vie, je l'avais soulignée parce qu'en dessous, j'avais pris une note en disant, mais redonnez-lui sa vie, ça sous-tend qu'on lui avait prise quelque part.
Oui. Oui, oui. On lui redonne quoi, en fait? On le remet face à ses problèmes, face à ses angoisses, face à ses peurs. Puis c'est des peurs qu'on peut essayer de calmer, mais on fait que du patchage, quoi. On fait que faut que ça soit lui qui ait envie d'aller mieux. Moi, j'ai consulté le jour où un ami qui était à la maison, qui est venu prendre un café, qui était au courant, parce que tout le monde ne savait pas que mon fils était dans la rue. J'esquivais souvent quand on me demandait de ses nouvelles en disant « Oui, oui, ben là, c'est une période difficile, ou là, ça va bien, bon, etc. » Mais très proches le savaient. Et cet homme avait dit un jour « C'est formidable. Est-ce que tu te rends compte que tout le monde, toi, son père, tes sœurs, les amis, tout le monde, on veut pour lui. Le seul qui veut pas s'en sortir,
c'est lui. »
Ouais,
mais d'ailleurs, à un moment donné, c'est très bien dit, son fils conjuguait sa vie au jeu. On n'en fait pas partie. Donc, si on n'en fait pas partie, si on n'en fait plus partie...
Il faut qu'il se débrouille.
Voilà, il faut qu'il se débrouille. Je vais vous poser une question juste après qu'on ait entendu un autre extrait, Francine Ruel. Parce que c'est vous donc qui avez lu. Et je le précise d'autant plus que c'était sûrement pas évident, mais ça, vous allez nous en parler après qu'on entende cet autre extrait.
Anna ne sait quoi répondre à ça. Avant, elle aurait hurlé dans le combiné comme une mère affolée, qui veut comprendre, qui veut des explications, quelles qu'elles soient. Elle l'aurait secoué, aurait tenté de le raisonner, proposé des solutions. Plus maintenant. Elle est trop fatiguée. Elle n'a plus d'arguments. Elle sait qu'elle ne peut plus le protéger de lui-même. Surtout, elle ne peut plus le sauver. Mais lui a besoin de s'adresser à elle, de la rassurer, comme il dit. Je me suis injecté de l'héroïne. Je voulais en finir. Anna frémit. Jusque-là, à sa connaissance, il avait touché à l'héroïne, mais en la sniffant, et non en l'introduisant dans ses veines. J'espérais que ce serait la bonne dose. Elle s'en veut terriblement de cette pensée qui traverse son esprit, qui s'immisce en elle. Meilleure chance la prochaine fois. Elle sait pertinemment que si ce n'est pas le fentanyl, ce sera la rue qui aura raison de lui.
Comment vous avez fait, Francine Ruel?
Je sais pas. Au jour le jour, avec beaucoup d'amour, avec... Moi, je suis... J'ai deux choses dans ma vie qui m'ont aidée ou qui m'ont nuit, je ne sais pas trop, et qui m'ont construit, en tout cas. Mes parents se sont séparés, j'étais très, très jeune. Ma mère avait 32 ans, 5 enfants sur les bras. Et je suis devenue raisonnable. C'est-à-dire que je me suis adaptée à ce qu'il y avait. j'étais pensionnaire, j'ai pas été souvent avec ma mère parce qu'il fallait être dans une famille l'été, parce que ma mère travaillait. Donc, c'était ça. Donc, j'ai fait, ah bon, c'est ça, on va faire avec, parce que j'adorais ma mère. Il y a eu ça. Puis il y a eu que je crois que je suis une indécrottable optimiste. Moi, je trouve des solutions à tout le temps, fatigable monde, là. Tout le temps. Mais je suis convaincue qu'il y a toujours des solutions, qu'on ne peut pas baisser les bras. Il y a un chapitre d'ailleurs où je pose la question, à partir de quand on baisse les bras? Ouais. À partir de quand on abdique? Et j'ai pas abdiqué, pas encore. Je peux pas abdiquer. Parce que les gens me disent, est-ce que vous avez de l'espoir? Je dis, oui, il est vivant. Tant qu'il est vivant, il y a de l'espoir. Peut-être qu'il va s'en sortir un jour. Et depuis que ce roman est sorti, j'ai fait un chemin aussi pour comprendre et que je suis obligée d'admettre que mon fils est lent, d'où l'escargot, que ça lui prend du temps avant de trouver ses solutions.
Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il le sait que ce livre est sorti?
Oui, oui, il l'a lu. Il y a deux choses qui, justement, qui a aidé à ce que... Je vous le dirai après, je vais juste terminer ça.
Oh, je m'excuse, je vous ai interrompu.
C'est un escargot, il est lent. Mais en plus, je crois qu'il est en train de prendre... C'est très dur pour un parent d'admettre ça, que nos enfants n'ont pas le même rythme que nous et n'ont pas les mêmes solutions que nous et qu'ils ne prennent pas nécessairement... les chemins les plus faciles. Mon fils ne prend que des chemins de traverse qui font peur, qui sont inquiétants. Mais peut-être qu'il fallait qu'il passe par là pour avoir sa propre rédemption. Peut-être. La preuve, puisqu'il a décidé de partir, d'essayer de s'installer dans une petite chambre, un appartement va venir là, éventuellement.
Ouais.
Mais c'est à cause du roman qu'il a lu. Il y a quelqu'un qui lui a dit... pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout à coup t'es prêt à faire ça? Et il a dit, ben j'ai lu le roman de ma mère, puis il y a une série qui va se faire, on peut pas dire où encore ni comment, mais il y a une série qui va se faire à partir du roman, c'est pas moi qui l'écris.
Ok.
Et l'auteur qui écrit et le recherchiste l'ont sollicité. Moi, j'y ai demandé, est-ce que ça t'intéresse d'aller raconter ta propre histoire, ta version à toi? Parce que dans le roman, je parle pas de l'accident, mais j'en fais juste un tout petit chapitre parce que j'étais incapable de le joindre et je voulais lui demander la permission. Dans le roman, il n'y a que la mère qui parle et lui, ce qu'il me racontait à moi. Donc, je peux m'en servir, mais pas ce que je sais pas ce qui lui appartient totalement. Et cette partie-là, quand il a lu le roman, j'ai dit, ben vas-y, raconte-moi qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé. Et sa plus grosse réaction, c'est, ben voyons, comment ça se fait que vous n'avez pas parlé de l'accident? Tout part de là. Donc, j'ai expliqué pourquoi, puis que c'était pas ça le but du roman non plus. Mais comme il s'adresse depuis plusieurs mois au scénariste et à son recherchiste, c'est comme s'il se réappropriait son histoire. Et ça, c'est très salvateur. Moi, j'espérais juste en écrivant ça, pas me vider le cœur parce que je l'avais fait en thérapie, mais j'espérais faire œuvre utile.
Oui.
Et ça, c'en est une partie.
C'était ça le but surtout. C'est parce qu'on on imagine que dans le monde, on le sait, il y a des milliers d'Arnaud, mais il y a aussi des milliers d'Anna. C'est aussi pour ces milliers, ces millions d'Anna que vous avez écrit ça. Hein?
Oui.
Et comment vous avez fait, parce que tantôt, je vous ai demandé... Francine Ruelle, comment vous avez fait? Je vous repose la question. Francine Ruelle, comment vous avez fait pour vous replonger là-dedans, pour lire à haute voix? Parce que quand on sait que l'émotion, ça passe souvent par la voix haute, vous avez dû avoir des moments difficiles en cabine, en studio, non?
Ben, je voulais en faire, mais c'est mon métier aussi, je suis professionnelle.
C'est vrai.
C'est mon métier. Déjà, ça aide énormément.
Ça aide, oui.
Mais je voulais pas... Mais comme je n'ai pas voulu faire de cette œuvre un roman... pleurnichard ou un roman qui s'étale en disant oh, c'est épouvantable, c'est effrayant, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit au jeu non plus. J'ai essayé en le lisant de le donner comme une lectrice le donnerait à quelqu'un. Moi, je me suis reculée en écrivant, c'est-à-dire que je me suis un peu retirée derrière Anna et ça m'a aidé énormément à pouvoir tout dire, à dire les choses qui font le plus mal. Pour pas les dire au jeu. C'est important pour moi, ça. Et c'est la même chose avec la lecture, c'est-à-dire que j'étais cette j'étais la transmission qui amène le lecteur à lire et à recevoir. Et j'ai essayé le plus possible de faire de ce roman-là quelque chose de lumineux. J'espère
oui,
que j'y suis arrivée.
Absolument.
Pour pas que ça soit quelque chose qui nous tire par le bas, mais non. Qui nous place devant une réalité.
Ouais. Oui.
Et vous le disiez, énorme, il y a tellement... Moi, j'ai raté les 6 derniers salons de la saison, mais les 6 premiers, je les ai faits. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui sont venues me voir, qui n'avaient pas nécessairement un enfant dans la rue, mais...
Mais qui redoutaient qu'eux.
Un proche, oui. Mais que ça arrive, mais un proche où ma fille ne me parle plus depuis 5 ans, et je ne sais même pas pourquoi. Mon fils a disparu, on ne sait pas où il est. Ma soeur, on essaie de la sortir de la drogue et on n'est pas capable. J'ai vécu ça pendant les 6 premiers salons de l'automne dernier.
Et je voudrais dire aussi qu'il y a des beaux moments. Parce qu'en plus, comme les chapitres sont courts,
ouais,
entre autres, à cette histoire du petit cochon, la tirelire, ouais, en page 92.
Qui est une histoire vraie.
Et voilà, c'est ce que je voulais savoir. C'est une histoire vraie.
Ouais.
Il nous reste 2 minutes. Vous nous la racontez vite fait?
Ben, rapidement, mon fils m'a raconté, ému, troublé, qu'un petit garçon était venu le voir avec ses parents. Dans le temps de Noël, il y a beaucoup de monde qui donne des chaussettes, des tucs et un peu de nourriture. Et puis ce petit garçon-là, il venait avec son petit cochon de porcelaine. Et puis il l'a donné à Étienne. Et mon fils a eu peur en disant, ben voyons, je suis prête à quêter pour avoir de l'argent d'adulte, mais pas d'un enfant. Et la mère a dit, non, monsieur, s'il vous plaît, écoutez bien, mon fils a pris 1 an à ramasser des sous pour le donner à un sans-abri et il vous a choisi, vous. Vous ne pouvez pas refuser ça.
Incroyable, incroyable, ouais. Incroyable. Je manque de mots, Francine Ruelle, honnêtement,
ouais.
Parce que c'est un... Je n'ose... Il ne l'a pas cassé, hein, la tirelire?
Non, il n'a pas été capable.
Oh, je suis contente, savez-vous quoi?
Voilà.
Francine Ruelle, voilà. On va se laisser là-dessus. Anna et l'enfant vieillard ou Anna et l'enfant escargot, c'est effectivement une lecture très inspirante. Et encore une fois, je voudrais souligner votre plume. Je n'ai pas eu le temps de le faire.
Oh, merci beaucoup, ça me touche énormément. C'est important pour moi d'en faire une œuvre très imagée et non pas explicative. Et peut-être que j'ai trouvé une façon d'écrire. Je suis en train de faire un autre roman, là. Un roman un peu philosophique, un après-pandémie, où on ne s'étale pas sur la pandémie, mais qu'est-ce qu'on va faire après ce qui nous est arrivé?
Alors, vous viendrez lire ça chez Vues et Voix, et
parfait.
Je serai très heureuse de vous accueillir à l'émission. Passez une belle fin de journée, Francine Ruelle.
Merci beaucoup.
Merci au nom de toutes les Anna et les Arnaud de cette terre.
Bon, puis si vous avez des commentaires, j'aimerais bien les entendre.
Ça oh, mais oui! Des commentaires sur le livre?
Oh, sur le livre, ouais.
Ah ben oui, ben c'est sûr, mais ils sont tous bons. Non,
merci.
Ok. Merci, Francine.
Merci.
Au revoir. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors, après L'enfant vieillard par Francine Ruelle, qui en signe également la lecture disponible chez Vues et Voix, et bien également chez Vues et Voix, dans notre catalogue, il y a ce livre « Koukoum » dont je n'avais jamais entendu parler. Et j'ai eu envie de découvrir l'univers littéraire de Michel Jean, qui a signé « Koukoum », c'est son 7e roman, qui, une fois de plus, nous fait partager... le quotidien d'une famille inoue. C'est un texte poétique très fort, mais aussi très vrai et très, très triste dans son réalisme, surtout dans la seconde partie de ce livre-là. Et c'est lu par nul autre que Dominique Pétain, qui a longtemps été porte-parole du festival Présence autochtone, qu'il l'est peut-être encore si le festival passe au travers des mailles de la Covid. Elle est aussi comédienne, elle est toute désignée pour faire la lectrice de Koukoum, pour être la lectrice de Koukoum. Alors, nous allons peut-être aller à leur rencontre à l'un et à l'autre juste après cette chanson, mais quelque chose me dit que En tout cas, j'ai des sérieux doutes. D'abord, en ce qui concerne Dominique Pétain, on vient de me signaler que son téléphone cellulaire est tombé en panne. Elle n'est absolument pas joignable. Il n'y a aucun moyen pour la joindre. Alors, c'est peut-être elle qui va tenter de nous joindre un petit peu plus tard. Quant à Michel Jean, j'attends de ses nouvelles. C'était coulé dans le béton, comme on dit, mais c'est ça quand on fait de la radio. Parfois, il arrive des impondérables. Ce qui ne m'empêchera pas, si par malheur, Michel Jean et Dominique Pétain ne peuvent se joindre à moi, de vous parler quand même de ce livre Coucoum que j'ai fini ce matin, ce midi, juste avant de venir vous rejoindre en onde, et un livre qui m'a complètement bouleversée. Pour nous amener à ce bouquin, qui d'autre que Richard Desjardins et quoi d'autre que Natac?
Tu es ce soleil aveuglant les étoiles. Quand tu parles au mourant, sa douleur est si douce. Pour trouver le ravage et tuer l'animal, pour trouver le refuge, tu es mieux que nous tous. Natar, j'ai dit que je ne peux rêver la vie sans toi. J'ai mémoire des eaux où je me suis baigné. Maintenant que je vis, que je rêve à la fois, tout mon être voudrait que tu sois le dernier, Natar. Mais je ne veux pas mourir sur ce rocher à corps, à la vue des autres abusés par les dieux. Il n'y a pas de fleurs pour jeter sur mon corps, et qui donc frappera le tambour de l'adieu? Je te le redis, je te suivrai dans la fosse, mais je veux de la terre au Natar, tu m'entends? Si cela te convient, si la vie nous exauce, nous serons ensemble jusqu'à la fin des temps. Je suis si inquiète, la lumière retarde un peu plus chaque jour, ton silence m'opprime. Ouvre les yeux et vois que les loups nous regardent, ils ont déjà choisi le moment, la victime. Et voilà que s'échappe dans le ciel obscurci le souffle du chaman étranglé de remords. Vois, il tremble de peur et ses doigts sont noircis, et pendant que je t'aime, il appelle la mort. Oh, ce hasard a soufflé jusqu'ici, dans ces brumes finales où s'achève le monde. Sois certain qu'elle ne viendra pas que pour lui. Cachons bien nos blessures, elle s'en vient pour le nombre. Ô Natar bien-aimé, moi mon cœur a conclu. Moi je meurs de mourir dans ce funeste camp. Oui, nous sommes perdus comme nul ne le fut. Oui, nous sommes perdus, mais encore vivants. Ouvre les yeux et vois cette nuée d'oiseaux. À l'assaut de la mer inconnue, où vont-ils? Moi je dis que là-bas il y a des roseaux. Allons voir, je devine des ailes. Le jour se lève, me nourrit et se couche sur des plumes divines et des cavernes sûres. Il y aura de l'eau chaude comme ta bouche pour accoucher la fille et fermer sa blessure. À ton signe, à ta voix recueillie sous tes lances, des troupeaux de bisons réclamant sacrifice. Et quand éclatera la lune d'abondance, des orages de fruits pour que vive ton fils. Destin le mien, nous ne mangerons plus, nous irons frayer aux savanes intérieures, et tu enflammeras mon désir pur et nu, que je hurle ta joie, que tu craches mon cœur. Et si par miracle nos prières parviennent à calmer ces dieux fous que la douleur fascine, je n'accepterai pas que l'un d'eux me ramène où j'ai pleuré du sable et mangé des racines. Je ne retourne pas sur les lieux des anciens, sous les lois de guerriers débouchant aux clairières, la mémoire brûlée, le flambeau à la main. S'il me faut retourner, je retourne à la mer. Je suis jeune Natar, comme un faon dans l'aurore, et la vive de moi et voudrait que tu viennes. Réveillons la horde, je l'entends qu'il implore. Attachons les épaves aux vessies des baleines. Nous serons les premiers à goûter aux amandes. Traversons, traversons, amenons qui le veut. Oh, aime-moi, aide-moi, mon vent. Veut fendre, je suis pleine Natar, je suis pleine Natar, il me faudra du feu.
Koukoum, c'est le nom qu'on donne aux grands-mères en Innu, à celles qui passent le savoir. Et Dieu sait si le savoir des Innu est un savoir puissant que nous autres blancs qui considérons que nous connaissons bien les autochtones, mais qui ignorons absolument finalement tout, eh bien c'est ça, c'est cette grand-mère-là, Koukoum, cette grand-mère-là, c'est la grand-mère de Michel Jean, un auteur que vous connaissez peut-être. Michel Jean, on le connaît plus comme chef d'antenne, animateur, reporter d'enquête. Un type qui a déjà été l'invité, entre autres, du Salon du Livre en 2017 à Paris, grâce à son livre Amun, qui était un recueil de nouvelles, dont il a d'ailleurs assuré la direction. Michel Jean, qui est un Innu, j'ai peur de mal prononcer ça, je ne sais pas si Jean-Sébastien pourra me corriger, mais de Mashteuyach, en tout cas, j'ai un nom comme ça, non, c'est pas trop, en tout cas, pardon, mes amis, si je prononce mal. Il a donc, j'ai dit sept tantôt, non, il est l'auteur de 8 livres et il a aussi co-dirigé Michel Jean. Michel Jean, un recueil de nouvelles qui s'appelle « Pourquoi cours-tu comme ça ?» Et on se souvient, vous vous souvenez peut-être qu'en 2013, c'est lui qui avait signé « Le vent en parle encore » qui avait été unanimement salué par la critique. Alors Koukoum est son 7e de 8 romans qu'il a donc écrit. Un roman qui raconte l'histoire d'Almanda Siméon, qui est une orpheline amoureuse, qui va partager la vie des Innus de Pequakami. Elle va apprendre l'existence nomade toute sa vie et la langue. Elle va briser, dit-elle, les barrières imposées aux femmes autochtones. C'est relaté, oui, c'est ce que nous dit le résumé, sur un ton intimiste, le parcours de cette femme qui exprime l'attachement aux valeurs ancestrales des Innus et le besoin de liberté qu'éprouvent les peuples nomades encore aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi j'ai adoré ce livre-là. C'est parce que j'avais l'impression de chez moi, pendant que je le lisais, que le temps était suspendu. Exactement comme la vie des Inuits avant. Parce qu'il y a dans ce livre-là l'avant et l'après. Ben, l'après, c'est lorsqu'on s'est mis à déboiser. C'est lorsque le lac Saint-Jean est devenu le lac Saint-Jean. C'est après que les Blancs aient démoli les terres ancestrales pour y construire des maisons, pour y construire les réserves dans lesquelles ils ont installé ces peuplades et pour y construire également les voies de chemin de fer qui sont quasiment, d'ailleurs, pour la plupart aujourd'hui abandonnées. Après, on en a fait d'autres, mais pas celle dont on parle dans le livre. Et donc, cette femme, qui est une petite fille au moment où les faits commencent, elle devient coucou, mais elle devient la grand-mère. Mais au début, c'est une petite fille qui est élevée par un oncle et une tante. Et elle vit à la campagne, à côté du lac Saint-Jean. Et je voudrais vous lire, si vous me le permettez, un passage tout de suite, parce que quand je vous dis que c'était comme le temps suspendu, c'est le passage où elle rencontre. Ensuite, on va écouter Dominique Pétain, ça je vous le promets, celle qui a lu le livre à haute voix. Mais il y a d'abord ce passage que j'aime tant. C'est un de ces soirs où je trayais les vaches dans la lumière tamisée du soleil couchant que je l'ai vue pour la première fois. Elle parle de l'homme avec qui elle va passer sa vie. Nous étions au début de l'été, un vent chaud balayait les herbes hautes. Un canot est apparu, descendant en silence la rivière à la chasse. Un homme, torse nu, à la peau cuivrée, ramait sans se presser, se laissant pousser par le courant. Il paraissait à peine plus âgé que moi et de ma position, je pouvais apercevoir qu'au fond de son embarcation d'écorce de bouleau gisait 5 outardes. Nos regards se sont croisés, il n'a pas souri et je n'ai pas eu peur. Le chasseur a disparu au bout d'un méandre derrière une colline. Les paumes collées au pis d'une vache, je l'ai regardé s'éloigner. La force des images, de la puissance de vocation, c'est vraiment génial. Alors, c'est un livre qui m'a fait regretter encore une fois, quand j'étais petite, d'avoir joué aux cow-boys et aux Indiens, surtout qu'évidemment, on voulait tous aussi être cow-boys en Europe et qu'il fallait tirer au sort pour savoir qui allait être les méchants Indiens. Et là, d'apprendre beaucoup plus sur la culture de ce peuple-là, qu'on n'essaie pas de me faire rentrer dans la tête, on n'essaie pas dans ce livre-là de vous dire « Regardez ce que les méchants ont fait ». Mais les choses sont là. Je vous propose d'écouter Dominique Pétain, comédienne qui, donc, a vu son téléphone brisé, qui n'a pas pu nous joindre aujourd'hui. Mais c'est elle qui fait la lecture à haute voix de « Coucoum » de Michel Jean pour le catalogue de Vues et Voix.
Mes plus anciens souvenirs remontent à la cabane où nous vivions. Guère plus qu'une modeste maison de colons, en bois, carré, avec un toit à deux versants et une seule fenêtre sur sa façade. Devant, un chemin de sable. Derrière, un champ arraché à la force des bras, à la forêt. C'est un terroir rocailleux, et pourtant les hommes le traitent comme un trésor, le retournent, l'engraissent, l'épierre. Et lui ne rend retour que des légumes fades, un peu de blé et du foin pour nourrir les vaches qui donnent le lait. La récolte serait bonne, ou pas, cela dépendait du temps. « Le ciel en déciderait, » disait le curé, comme si Dieu n'avait que ça à faire.
J'ai reçu tellement de leçons de cette lecture de Coucoum, notamment sur l'animal, par exemple, tuer l'animal. Là-bas, on ne dit pas « Ah, coup de chance, je l'ai eu !» On dit, en pays Inou, « Remercie l'animal parce qu'il a décidé de mourir pour te nourrir. » Vous savez que le mot « guerre » n'existe pas, le mot « violence » non plus. D'ailleurs, on parle aussi de la langue là-dedans qui n'a rien à voir finalement avec une langue étrangère, dit Michel Jean. C'est plus une autre façon de communiquer. Il y a cette phrase, parce que la plume de Michel Jean est absolument merveilleuse. Il y a cette phrase lorsque on les empêche de monter plus haut dans le nord, où ils vont tous les ans en hiver. Et il y a un moment donné où ils approchent de la Péribonka, la rivière, et généralement c'est là qu'ils embarquent et qu'ils montent. Et là, eh bien, il y a des billots de bois partout. Ils sont absolument empêchés parce que tout d'un coup, la main de l'homme est arrivée là-dedans, l'homme blanc, et l'homme est en train de défricher les terres. Et écoutez la plume de Michel Jean qui dit « Dans nos canots, nous étions paralysés par l'effroi, devant nous la péribonka, étouffant sous le poids des troncs, vomissait la forêt dans le lac. » Ouais, quand on sait écrire, on sait écrire. Un autre extrait de Dominique Pétain avec qui je n'ai pas pu parler, mais je voudrais qu'on l'entende.
« De mes parents, je ne conserve aucun souvenir. J'ai souvent essayé d'imaginer leur visage. Mon père était grand, costaud et résolu. Il avait des mains puissantes. Ma mère était blonde, avec des yeux bleus comme les miens. Elle avait des traits fins, elle était chaleureuse, aimante. Bien sûr, ces deux personnes n'existaient que dans mon esprit d'enfant. Qui sait à quoi ressemblaient mes géniteurs en vérité? Peu importe, en fait. Mais j'aime croire que la force et la douceur les habitaient. J'ai grandi auprès d'une femme et d'un homme que j'appelais ma tante et mon oncle. J'ignore s'ils m'ont aimé, mais ils ont pris soin de moi. Ils sont morts il y a longtemps, et la maison au bout de la rivière à la chasse a brûlé. La terre, par contre, est encore là. Les champs prennent toute la place maintenant. Les fermiers, accrochés à leur lepin, encerclent désormais Pequakami. Le vent se lève et vient lécher mon visage usé. Le lac s'agite. Je ne suis qu'une vieille qui a trop vécu. Toi au moins, mon lac, ils ne peuvent rien contre toi. Tu es immuable.
Honte à toi qui la première m'a appris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Honte à toi, femme à l'œil sombre, dont les funestes amours ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. Ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. C'est ta voix, c'est ton sourire, c'est ton regard corrupteur qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. Qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. C'est ta jeunesse et tes charmes qui m'ont fait désespérer. Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. Honte à toi, j'étais encore aussi simple qu'un enfant. Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant. Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant. Certes, ce cœur sans défense put sans peine être abusé, mais lui laisser l'innocence était encore plus aisé. Mais lui laisser l'innocence était encore plus aisé. Honte à toi, tu fus la mère de mes premières douleurs, et tu fis de ma paupière jaillir à la source des pleurs. Et tu fis de ma paupière jaillir à la source des pleurs. Elle coule, sois-en sûr, et rien ne la tarira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira. Mais dans cette source amère, du moins je me laverai. Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré. Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré. Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré.
Serge Gainsbourg, je ne la connaissais pas cette chanson-là, dit dans la nuit d'octobre, pour cette émission des livres pleins les oreilles, toujours animée par Clotilde Seil, bien navrée de n'avoir pu parler à Michel Jean et Dominique Pétain, respectivement auteur et lectrice de ce livre Koukoum, que vous pouvez retrouver donc sur le catalogue de Vues et Voix en livre audio. Quelques nouveautés maintenant. La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, prix du public de l'association La Plume de Pan. Nous sommes avec Atoko qui a 25 ans et qu'on voit ici de retour à Kamatura, à Kamakura. J'imagine que donc il y a eu un tome 1. On est dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public parce que cette grand-mère, une femme exigeante, sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Je trouvais ça charmant, le charme suranné de la lettre, hein, tel qu'on n'en reçoit plus. On reçoit même plus de factures aujourd'hui. On les reçoit par Internet. Non, mais sérieusement, c'est pour ça que je me suis attachée à ce livre-là. Alors, Atoko répond aux souhaits, même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir. Elle calligraphie des cartes de vœux, elle rédige un mot de condoléance pour le décès d'un singe. Elle écrit aussi des lettres d'amour, aussi bien que d'adieu. Et à toutes ses exigences, elle se plie avec bonheur pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin. Et c'est comme ça que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et aussi le théâtre, nous dit-on dans ce résumé, de réconciliation inattendue. Transportée par la calligraphie japonaise en hiragana et katana chinoise, en kanji, Atoko compose des lettres personnalisées avec pour chacun un code bien particulier. C'est lu par Peggy Martineau, c'est elle qui est la lauréate 2020 du prix du public de l'association La Plume de Pan dans la catégorie roman contemporain pour cet enregistrement dont voici un extrait.
Après avoir hésité, j'ai décidé de rédiger la lettre à Sakula à la plume de verre. Car il me semblait que c'était le meilleur moyen pour exprimer la gentillesse de M. Sonoda, sa délicatesse cristalline. Cette lettre devait être un petit cadeau de M. Sonoda à Sakula. J'ai sorti de l'écritoire hérité de l'aîné la plume de verre qui y dormait depuis longtemps. C'est un instrument d'écriture entièrement fait en verre. J'imaginais que la plume de verre avait été mise au point en Europe, mais elle est née au Japon. C'est un artisan spécialisé dans la fabrication de clochettes en verre, Sasaki Sadajiro, qui l'a inventée en 1902. Elle a immédiatement été adoptée en France et en Italie. Sa pointe est gravée de 8 fines rainures qui retiennent l'encre. C'est un instrument peu utilisé, mais qui confère un charme réel aux grandes occasions. Et celle de l'aîné, une fine plume rouge pâle, me semblait idéale pour calligraphier la lettre à Sakura. Compte tenu des particularités de la plume de verre, j'ai choisi du papier lisse. Les fibres apparentes, et encore plus les textures proches du papier japonais, ne se prêtent pas à la calligraphie à la plume de verre. Avec sa pointe dure, elle accroche les fibres. J'ai opté pour du verger crème fabriqué en Belgique. Un type de papier utilisé depuis longtemps par les familles royales et nobles d'Europe. Les vergeurs, les marques laissées par les fils du tamis utilisés pour fabriquer le papier, qui lui donne son nom, forment des aspérités ténues, pareilles à des rides, qui projettent de subtiles ombres sur la feuille blanche. Au toucher, ce papier a la chaleur du fait main. Il en émane bienveillance et douceur. C'était parfait pour communiquer les sentiments de M. Sonoda.
Si je vous dis Trump, oui, je sais, vous êtes écœurés d'en entendre parler, mais pourtant, écoutez ce qu'en dit Mary Trump. C'est une nouveauté Audiolib, trop et jamais assez, sous-titre « Comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde ».
Un taxi m'a conduite à l'hôtel Trump International, où ma famille était gracieusement accueillie pour une nuit. Je m'étais attendue à ce que l'hôtel soit kitsch et clinquant. Ce n'était pas le cas. Ma chambre aussi était décorée avec goût. Mais mon nom s'étalait partout. Surtout. Shampoing Trump, après shampoing Trump, chausson Trump, charlotte de douche Trump, cirage Trump, nécessaire de couture Trump, peignoir Trump. J'ai ouvert le frigo et j'y ai pris une demi-bouteille de vin blanc Trump que j'ai versé dans ma gorge de Trump pour qu'il coure dans mes veines de Trump jusqu'à atteindre le centre du plaisir dans ma cervelle de Trump. Une fois au complet, nous nous sommes présentés aux agents de sécurité qui attendaient dehors. Puis nous sommes entassés dans deux minibus envoyés par la Maison-Blanche, telle une équipe de sport universitaire. Une fois dans la Maison-Blanche, nous nous sommes engagés, par deux ou par trois, dans de longs couloirs dont les fenêtres donnaient sur des jardins et des pelouses, passant devant les portails grandeur nature des anciennes premières dames. Je me suis arrêté devant celui d'Hillary Clinton pour le contempler une minute en silence. Une fois de plus, je me suis demandé comment cela avait pu arriver. Je n'avais jamais eu aucune raison d'imaginer que je visiterais un jour cet endroit, et encore moins dans ces circonstances. C'était surréaliste. La Maison Blanche était élégante, imposante et majestueuse, et j'étais sur le point de revoir mon oncle, l'occupant des lieux pour la première fois depuis 8 ans.
Mary Trump, qui est la nièce, hein, elle était la fille du frère Fred Trump, de qui vous savez. Voilà, et ça aussi, ça se ramasse dans les nouveautés de livres audio produits par Audiolib. Vous trouverez ça sur toutes les plateformes dignes de ce nom. C'est ainsi que s'achève l'émission Des livres plein les oreilles. Je voudrais remercier Francine Ruel d'avoir si gentiment accepté de répondre à mes questions pour Anna et l'enfant vieillard qu'elle a lu maintenant et qui est disponible en livre audio. Merci aussi à Michel Jean et Dominique Pétain qui n'étaient pas là, mais qui ont écrit et lu un fichu de beau livre. Coucoum, salut.